tous les dimanches de l'été sur Europe 1.
10h, 11h, les grands entretiens de Charles Villeneuve.
Professeur Antoine Flahault, directeur de l'Institut de santé globale de la faculté de médecine de l'Université de Genève, vous êtes épidémiologiste, apprécié, connu et mesuré, c'est mon avis en tout cas. Et c'est cette mesure qui fait de vous un homme qu'on consulte assez souvent, parce que vous êtes une sorte de sage dans ce métier parfois assez remuant. Et je voudrais vous poser tout de suite la question de confiance, ce que j'appelle la question de confiance. Est-ce que les sous-variants d'Omicron, BA4 et BA5, vont-ils gâcher notre été ?
Alors, c'est assez difficile de prédire cette pandémie. On a pu s'en rendre compte. Vous savez, si vous m'aviez posé la question il y a 3 semaines ou 1 mois de savoir quels allaient être les sous-variants qui allaient peut-être nous empoisonner cet été, j'aurais eu des difficultés de savoir si c'était un sous-variant qu'on appelle new-yorkais ou BA2.12.1, désolé pour cette précision, ou ce fameux BA5. Parce qu'en fait, on dit BA4 et BA5, mais celui qui semble gagner en ce moment toutes les compétitions internationales, c'est vraiment BA5. Il s'est qualifié d'abord en Afrique du Sud, il est arrivé au Portugal il y a à peu près 1 mois, et il a causé une vague assez importante au Portugal, et c'est cela qui pourrait menacer un peu notre été. Alors, est-ce que ça gâchera l'été ? Ça dépend pour qui. Si vous êtes un adulte assez jeune, disons moins de 60 ans, bien vacciné, sans comorbidité particulière, sans immunodépression, vraiment, vous ne risquez pas, en tout cas, l'hospitalisation et encore moins le décès, si l'on en croit l'expérience à la fois sud-africaine et à la fois du Portugal. Bien sûr, vous risquez quand même de faire ce qu'on appelle des Covid longs, c'est-à-dire des formes retardées, parfois assez handicapantes, de fatigue, parfois de signes physiques qui peuvent être tout à fait gênants. Mais disons que l'été pourrait être gâché pour des personnes âgées, plutôt de plus de 70 ans, voire de plus de 80 ans, même assez bien vaccinés, ou des personnes immunodéprimées. C'est-à-dire des personnes très vulnérables qui, à l'occasion d'un Covid, peut-être amené par la famille, pourraient vraiment, en effet, basculer au cours de l'été. Donc, je pense que la grande vigilance, ça va être, par exemple, dans les EHPAD, dans les maisons de retraite, ça va être aussi dans les échanges intergénérationnels, très agréables de l'été, où il va falloir faire attention de ne pas transmettre ce virus à papy et mamie.
Donc c'est un virus qui est moins dangereux que la plupart de ceux qui ont alimenté la pandémie jusqu'à présent.
Alors, à chaque fois qu'on parle de virulence, donc de cette dangerosité des virus, on doit se rendre compte que nous sommes désormais vaccinés. C'est parce que nous sommes vaccinés que Omicron, parce qu'on est dans la famille Omicron, hein, on n'en sort pas, c'est une famille nombreuse. Vous parliez de BA4, BA5, mais on a déjà eu cet hiver BA1 et BA2. Ce sont des Omicron qui sont très particuliers parce que dans les épidémiologistes et les immunologistes les appellent les avions furtifs de l'immunité. Ils passent sous les radars de l'immunité. Quand vous avez eu Omicron, ben vous pouvez avoir à nouveau Omicron. Votre organisme ne s'en souviendra pas.
Ce qui est le cas actuellement.
Et cela dit, on a, grâce à la vaccination, une autre digue immunitaire qui nous protège extrêmement bien, qu'on appelle l'immunité à médiation cellulaire, peu importe, c'est l'immunité qui nous protège contre les formes graves. Donc quand vous êtes adulte, en effet, Omicron paraît moins virulent, moins dangereux. Mais c'est vrai que dans des endroits où l'on est peu vacciné, et on l'a vu à Hong Kong, les adultes étaient assez bien vaccinés, mais curieusement, les personnes âgées ne l'étaient pas. Eh bien, Omicron, et là je parle plutôt de BA1 et de BA2, y a fait des ravages. Je dirais des ravages de nature à peu près équivalente à la vague de Wuhan en Chine en 2020. Donc, s'il n'y a pas le vaccin, ce virus est extrêmement dangereux. Mais si vous êtes correctement vacciné, en effet, on peut dire qu'il est beaucoup moins virulent.
Donc, de lever les mesures de prévention et de restriction, comme l'a fait notamment la France, ça n'est pas le seul pays qui les a levées, assez radicalement. Le port du masque, et puis évidemment l'hydroalcoolique. Est-ce que ça n'a pas été une imprudence ? C'était une bonne chose, au fond, de redonner la liberté aux patients potentiels.
Oui, je crois, on peut presque dire qu'il y a eu deux grandes périodes dans l'histoire de cette pandémie. L'une qu'on pourrait appeler le Moyen-Âge, parce que les mesures qui ont été appliquées étaient moyenâgeuses. On n'avait pas le choix. C'était les confinements, les quarantaines, les couvre-feux. On n'avait pas le choix parce qu'on n'avait pas ni vaccin ni traitement. Et donc c'était ça ou le risque d'en mourir de façon d'une hécatombe, enfin de façon extrêmement monstrueuse. Et puis, le vaccin, ça a été notre révolution, non pas française, mais mondiale, puisque à partir du moment où l'on a été bien vacciné, suffisamment couvert, avec des très hauts taux de couverture vaccinale, alors on a pu tomber toutes ces mesures moyenâgeuses. On est arrivé dans une ère moderne de la pandémie, qui est une sorte de paix armée, où on a bien l'impression qu'il faut continuer à se vacciner. Il va falloir aller à la quatrième dose pour ceux qui ne l'ont pas encore. Puis, sans doute, on aura, tant qu'on a cette paix armée, c'est-à-dire que tant qu'on est bien vraiment couvert par l'immunité vaccinale, alors le virus ne nous paraît pas suffisamment dangereux pour, je dirais, justifier ces mesures moyenâgeuses d'autrefois. Les seuls qui les ont gardées, ce sont des régimes d'abord autoritaires, non démocratiques, et en plus, ce sont des régimes qui n'ont pas su vacciner leurs personnes âgées. Je pense à la Chine ou à la Corée du Nord en ce moment. Donc la Chine se débat aujourd'hui avec une politique zéro Covid qui pouvait se justifier à l'époque moyenâgeuse, mais qui aujourd'hui est une sorte de maltraitance infligée à une population qui pourrait bénéficier, par une couverture vaccinale appropriée, des mêmes mesures que nous avons, nous.
Alors, je limite ma question à l'Europe occidentale, l'Europe de l'Ouest. La vaccination s'est révélée efficace.
Alors, la vaccination s'est révélée extraordinairement efficace. Un récent article a montré que c'est entre 14 millions et 18 millions de vies qui ont été sauvées dans le monde grâce à la vaccination. Donc, le vaccin a été formidablement efficace. On a quand même à déplorer à peu près 20 millions de décès dans le monde à cause de cette pandémie. On est donc face à une pandémie d'une gravité extrême. On parlait de la... Autrefois, je dirais, la mémoire collective, c'était la pandémie de grippe espagnole en 1919-1920. Eh bien, on a quelque chose qui est absolument équivalent. Et grâce à la vaccination qui nous est arrivée très tôt, hein, il faut savoir qu'on a eu un vaccin, c'était une prouesse, on a eu des vaccins qui sont arrivés moins d'un an après la découverte du virus, eh bien, ce vaccin nous a en effet sauvé un très grand nombre de vies. La seule chose dont il faut se rendre compte, c'est que Omicron, qui à peu près tue 5 fois moins que les variants précédents, Alpha, Delta, etc., grâce au vaccin, est 5 fois plus transmissible. Et le résultat net est qu'il y a autant de décès en France, en rythme annuel, dans l'année 2022, qui n'est pas terminée, bien entendu, par rapport à l'année 2021 ou l'année 2020. On n'a pas tellement réussi à baisser la mortalité absolue parce qu'on a de plus en plus de cas et de plus en plus de gens contaminés. Même, vous vous rendez compte que si vous êtes 5 fois plus transmissible, vous faites 5 fois plus de cas. Et même si le variant est 5 fois moins dangereux, le résultat, malheureusement, est à peu près un nombre équivalent de décès. Donc on n'a pas encore aujourd'hui réussi véritablement à complètement écraser cette pandémie et à ne plus avoir à souffrir d'un nombre de décès tellement important qu'il place aujourd'hui encore le Covid dans les toutes premières causes de mortalité dans des pays comme la France ou comme le Royaume-Uni.
Mais ça tient au fait que il y a quand même beaucoup de négligence aussi, beaucoup, près de plusieurs milliers de patients, en quelque sorte en puissance, n'ont même pas fait leur deuxième vaccin, le rappel du deuxième vaccin.
Oui, alors, il y a, la théorie des vaccins, il y a deux types de vaccins. Il y a des vaccins qui sont ce qu'on appelle stérilisant. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous prenez le vaccin, vous contrez l'infection. Si on avait un vaccin comme ça contre le Covid, le fait d'avoir une petite minorité de gens non vaccinés, parce que dans toutes les maladies, il y a toujours une petite minorité qui n'est pas vaccinée, aurait été protégée par l'immunité collective, par tous les autres. Mais il se trouve ici que ceux qui ne sont pas vaccinés ne sont pas du tout protégés par ceux qui sont vaccinés. Aujourd'hui, se vacciner n'est pas très altruiste. C'est un geste qui est fait pour soi, qui est fait pour se protéger. Alors, ce qui est altruiste, c'est qu'en vous protégeant, vous évitez l'engorgement des hôpitaux et vous évitez les confinements, les couvre-feux, etc. Mais aussi, bien entendu, vous évitez de la mortalité et de la perte de vie humaine. Mais vous ne protégez pas ceux qui ne sont pas vaccinés. Donc aujourd'hui, ceux qui ne sont pas vaccinés se trouvent finalement dans un état de très grande vulnérabilité. Certes, il y a des médicaments pour tenter de les sauver, mais au prix de souffrances. Et en effet, vous avez tout à fait raison, c'est eux qui remplissent aujourd'hui les lits de réanimation et les hôpitaux lorsque ce ne sont pas des gens immunodéprimés ou extrêmement âgés.
Professeur Antoine Flahaut, vous êtes un épidémiologiste connu, vous dirigez l'Institut de santé globale à la faculté de médecine de l'Université de Genève, et vous nous avez rassuré en nous disant que le vaccin quand même a beaucoup atténué la dangerosité de cette pandémie. Mais les vaccins ont donc joué un rôle capital, mais tout faire reposer sur les vaccins ne suffit pas, manifestement.
En effet, aucune mesure, même les confinements, même le masque, même la fermeture des écoles, aucune des mesures que nous avons mises en œuvre n'est entièrement efficace comme un barrage à la pandémie. Ce qui permet vraiment aujourd'hui d'être efficace, c'est l'accumulation des mesures. C'est de pouvoir mettre des masques lorsque le virus circule. C'est de pouvoir, bien entendu, utiliser le vaccin.
Ce qui est le cas actuellement.
Ce qui est le cas actuellement. Et c'est aussi quelque chose que nous n'avons pas fait dans la plupart des pays européens, c'est de déclencher un plan de ventilation qui viserait à améliorer la qualité de l'air intérieur. Vous savez, ici, on est dans des locaux extrêmement modernes, très bien ventilés, et probablement la qualité de l'air intérieur, sur le plan microbiologique, est à peu près équivalente.
Quand vous dites ici, ce sont les studios d'Europe 1.
Dans les studios d'Europe 1. On peut penser que la qualité de l'air intérieur est à peu près voisine de celle de l'air extérieur. Et cela est très intéressant parce que quand on regarde les contaminations de Covid, 95, peut-être 99% des contaminations surviennent dans des lieux clos, mal ventilés, qui reçoivent du public. Ça peut être nos habitations, mais ça peut être bien sûr les salles de classe, les transports publics, les bureaux partagés, les bars, les restaurants, les clubs, etc. Donc, si l'on arrivait à rendre la qualité de l'air intérieur dans tous ces locaux similaire à celle de la rue, à celle des terrasses de café, nous pourrions drastiquement réduire le nombre de contaminations. Ça n'atteindrait ni les libertés individuelles, ni notre vie sociale et nos interactions sociales. C'est une urgence de santé publique aujourd'hui que de procéder à l'amélioration de la qualité de l'air intérieur.
Mais en attendant, on peut aérer nos appartements abondamment.
Vous avez raison, surtout dans les pays tempérés, en l'absence de période de canicule. Vous voyez que quand on a eu cette canicule au cours du mois de juin, il était difficile, et même les recommandations de santé publique étaient de dire plutôt fermez vos volets, fermez vos fenêtres, et n'allez pas trop à l'extérieur. Ça va, c'est bon contre la canicule, mais ça va à l'encontre, bien sûr, des préconisations contre la transmission du coronavirus. J'ai eu une fois un entretien sur une radio canadienne en plein mois de janvier où la journaliste m'a dit « Mais vous plaisantez, on ne peut pas ouvrir les fenêtres au Canada en plein mois de janvier. » Donc il faut penser l'amélioration de la qualité de l'air intérieur d'une façon sans doute un tout petit peu plus sophistiquée que l'ouverture des fenêtres de temps en temps.
Il y a quelques instants, je souhaitais savoir si vous étiez pour la quatrième dose de vaccin, pour les plus âgés, j'imagine, pour les plus vulnérables ou pour toute la population.
Alors, dans ce domaine, les vaccins et les traitements, on a deux solutions. On peut s'intéresser à l'avis et à l'opinion d'un expert. Il faut d'abord lui demander s'il a des conflits d'intérêts. En l'occurrence, j'en ai pas. vis-à-vis des laboratoires pharmaceutiques producteurs de ces produits. Et ensuite, il faut savoir si on veut reposer sur l'opinion de cet expert ou si l'on ne préfère pas l'expertise collective qui est organisée et coordonnée par les agences de sécurité sanitaire. Et moi, ce que je vous répondrais, c'est que je préfère cette expertise collective. Bien sûr, j'ai mon avis et je vais vous le donner, mais l'expertise collective qui nous dit... Vous savez, c'est des experts qui sont en charge du suivi de ces médicaments, de l'homologation de ces médicaments. Ils ont accès à toutes les données des fabricants. Ils peuvent en demander à l'ANVI. Ils peuvent conduire des enquêtes complémentaires s'ils ne sont pas satisfaits. Et après, ils prennent un avis qui n'est pas isolé, mais qui est confronté à celui de leurs collègues. Et ils vont nous dire, oui, il faut une quatrième dose. Ou éventuellement, ils vont peser le pour et le contre. Ils vont dire, par exemple... Ce serait bien qu'il y ait une quatrième dose pour tous, mais aujourd'hui, si tout le monde se rue dans les pharmacies, peut-être que les personnes prioritaires, que sont les personnes très âgées en particulier, risqueraient de ne pas en trouver à disposition pour elles. Et ça, ce serait peut-être dommageable. Alors oui, moi je suis très favorable à la quatrième dose. Je pense en effet que plus notre couverture vaccinale est forte et plus on est capable de lutter contre les formes sévères de la maladie. Attention, la quatrième dose... ni chez vous, ni chez moi, ne nous empêchera d'avoir à nouveau le Covid avec BA5. Parce que ce vaccin a été créé contre la souche de Wuhan et n'est pas efficace contre la transmission de ces nouveaux variants du SARS-CoV-2, de ce coronavirus. En revanche, elle permettra, cette quatrième dose, de recharger un petit peu des micro-batteries d'immunité que nous avons, qui s'appelle les lymphocytes T. Et c'est cette fameuse immunité à médiation cellulaire, ces petites cellules sont des batteries d'immunité qu'il faut recharger régulièrement et qui vont lutter contre les formes graves de Covid. Et si vous et moi nous sommes vaccinés, nous ferons beaucoup moins probablement une forme grave si jamais nous avons le Covid cet été. Et c'est en ce sens que je suis très favorable pour tous aujourd'hui, pour toutes les personnes éligibles à la vaccination, d'avoir cette quatrième dose.
Mais manifestement, en vous écoutant, est-ce que je me trompe en disant qu'il faut s'attendre à devoir périodiquement se faire injecter une piqûre de rappel?
Alors, tant qu'on n'aura pas réalisé ce plan ventilation que j'appelle de mes voeux, et qui pour moi est un peu l'équivalent de l'assainissement des eaux, vous savez, quand on a séparé ou purifié ou filtré les eaux de la Seine, pour qu'on puisse les boire au robinet sans aucun danger. Si demain, il y a quelques cas de choléra qui reviennent de je ne sais où, à Paris, vous n'aurez aucun risque, en buvant de l'eau du robinet, d'attraper le choléra. Pourquoi ? Parce que les eaux sont très clairement purifiées et filtrées. Si jamais on arrive à la même chose dans l'air intérieur, si quand vous arrivez dans un bar, un restaurant, une salle de cinéma, un théâtre, vous n'avez aucun risque d'attraper le coronavirus, pas plus que d'attraper le choléra en buvant un verre d'eau du robinet, alors peut-être on pourra se passer de ces vaccinations à répétition, peut-être qu'on pourra se passer de ce port de masque et de ces mesures.
Ça n'est pas encore le cas.
Et ça n'est pas encore le cas.
En ce qui concerne le vaccin, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'égalité d'accès au vaccin a progressé, mais de manière significative?
Dans le monde, vous voulez dire?
Oui.
Alors, parce qu'en Europe, je pense que ça a été la grande force de l'Europe qui a magnifiquement joué la distribution équitable des vaccins et qu'on peut le saluer. L'Agence européenne du médicament est une des plus belles réalisations européennes qui existent, puisque le même jour, en décembre 2020, si vous vous souvenez, tous les pays européens ont eu l'homologation promulguée du vaccin, sans que ce soit une sorte de domino, une sorte de surenchère entre les États pour essayer de se procurer le plus de vaccins possible pour sa population. Il y a eu un partage équitable au niveau de l'Europe. Malheureusement, les égoïsmes aidant, le fait qu'on ne se préoccupe pas beaucoup des pays pauvres de la planète, sauf quand les germes nous préoccupent, par exemple le monkeypox, hein, cette fameuse variole du singe qui existe depuis
justement
1970. On ne s'en occupe qu'aujourd'hui, c'est un peu scandaleux pour les pays pauvres de la
planète. Est-ce que c'est une nouvelle menace sanitaire?
Oui, c'est certainement une nouvelle menace sanitaire, même... Si aujourd'hui les cas ne semblent pas très graves, il n'y a pas de mort qu'on peut encore déplorer, mais cette maladie quand elle émerge dans une nouvelle région du monde, doit toujours être considérée comme une menace et comme extrêmement préoccupante. Il faut donc tout faire aujourd'hui pour enrayer ce démarrage, cette flambée de monkeypox.
Mais est-ce qu'elle porte bien son nom ?
Alors, je l'appelle monkeypox, c'est le nom anglais, parce que ce nom anglais est moins stigmatisant que le nom français, qui est une traduction littérale et un peu bête, si vous pouvez me permettre cette expression. Un peu bête parce que c'est pas la variole. La variole, c'est une maladie dramatique qui a tué 300 millions de personnes au XXe siècle.
Et est-ce qu'elle vient du singe, vraiment ?
Et elle vient pas du singe.
Ah bon.
Elle ne vient pas du singe. Elle a été découverte pour la première fois chez des singes d'une animalerie de chercheurs de Copenhague, au Danemark, en 1958. Et on l'a appelée monkeypox en anglais, et en français, on a voulu le traduire par variole du singe.
Et elle se transmet comment ?
Alors, il y a une transmission par voie sexuelle qui est probable parce qu'on a trouvé du virus dans le sperme. Elle se transmet aujourd'hui.
C'était le mode de transmission du sida.
Oui, et elle a un démarrage qui ressemble un peu au sida, au sens où ce sont des hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes qui sont les premiers atteints aujourd'hui. Pas seulement. En France, on a découvert deux enfants scolarisés dans la région parisienne qui ont été atteints également, donc d'une même fratrie. Donc il y a eu visiblement une contamination. En fait, la contamination, comme pour la varicelle, peut se faire de peau malade à peau saine. Si vous touchez quelqu'un d'un peu près avec ces vésicules, et les personnels soignants aussi sont à risque, ils peuvent se contaminer parce que les vésicules fourmillent de virus. Sans doute aussi donc le sperme, peut-être aussi la salive, et donc il est possible aussi qu'il puisse y avoir une transmission par les petites gouttelettes que l'on expire par sa respiration quand on parle. Donc ce sont essentiellement la grande promiscuité qui favorise la diffusion de ce virus, qui n'est pas très transmissible. Jusqu'à présent, en Afrique, il avait fait des épidémies, mais jamais très longues. Au bout de 6 à 7 personnes, dans la chaîne de transmission, l'épidémie mourait d'elle-même.
Professeur Antoine Flaou, quel est le mode donc de traitement de la variole du singe et comment évaluez-vous son efficacité ?
Alors, je dirais, si vous êtes un épidémiologiste traditionnel qui n'a pas pris les leçons de la pandémie de sida dont on a parlé à l'instant, vous allez dire, il faut mettre les personnes à l'isolement, il faut mettre les contacts en quarantaine pendant 21 jours, 3 semaines, c'est très long, il faut évidemment qu'il n'y ait plus de relations sexuelles. Si vous êtes pragmatique et réaliste, vous vous apercevez qu'il faut beaucoup d'adhésion à vos préconisations pour qu'elles soient suivies de façon efficace. On peut voir que ce n'est pas le cas et que souvent, les personnes ne s'isolent pas suffisamment et continuent à contaminer d'autres personnes. Donc, en fait, il y a, et ce que nous a appris la pandémie de sida, c'est qu'on peut préconiser soit des traitements, soit des vaccins. Il existe un vaccin contre le monkeypox, qui est un vaccin de troisième génération, qui est, semble-t-il, bien toléré, et que l'on peut proposer même quand on a déjà été contaminé ou quand on a déjà été en contact avec quelqu'un de contaminant. Donc on peut penser vacciner les gens dès qu'on sait qu'ils ont un contact à risque. On peut aussi penser vacciner par exemple les soignants qui vont s'occuper de ces personnes avant même qu'ils puissent être contaminés. Et puis on a aussi un traitement aujourd'hui qui est sur le marché européen et qui est homologué et qui est un antiviral qu'il faut prendre par voie orale pendant 14 jours et qui est très efficace également. C'est très efficace notamment pour éviter tout risque de complication, toute cicatrice, toute séquelle. Il faut savoir que pour l'instant, il n'y a pas de gravité. C'est pas du tout comparable au sida, c'est pas du tout un virus mortel. Il a été mortel en Afrique, on a vu, il y a une mortalité qui a été documentée chez des enfants, donc il semble plus dangereux chez l'enfant que chez l'adulte, et on peut juste penser que on n'a pas envie d'avoir ce virus parce que les vésicules sont très douloureuses et que si on peut, par les traitements, soulager les patients, c'est déjà très bien.
Est-ce qu'on peut avoir la crainte d'un retour de la discrimination à l'égard des homosexuels ?
C'est un peu la crainte que l'on a pour plusieurs raisons. D'abord, une raison, je dirais, éthique. La discrimination est détestable. Mais aussi, quand on est épidémiologiste, sur une raison de contre-productivité. À partir du moment où vous commencez à être discriminant, les personnes ne vont plus vouloir se faire diagnostiquer, se faire tester, se faire traiter. Il va y avoir une épidémie qui va courir à bas bruit. On l'a beaucoup connue, par exemple, avec les toxicomanes. On l'a connue aussi parfois avec des prostituées qui, pour préserver leur acquis, leur pain, préféraient taire leur séropositivité pour le sida. Il ne faudrait surtout pas que cela arrive pour la variole du singe ou pour le monkeypox, parce qu'il se propagerait à ce moment-là à bas bruit, de façon insidieuse, sans qu'on puisse s'en rendre compte.
Justement, le message de l'humaniste que vous êtes, quel message pourriez-vous adresser à nos auditeurs ?
D'abord, je pense qu'il faut que tous les États et que tous les pays se coordonnent bien pour essayer d'enrayer ce phénomène. Ce phénomène n'est pas inéluctable. On peut espérer, quand on a quelques centaines de cas sur un pays comme la France, on peut espérer en venir à bout, on peut espérer vraiment arriver à arrêter les chaînes de contamination. Ça va être difficile et peut-être ce ne sera pas possible. On a vu que pour le Covid, tous les efforts n'ont pas permis d'en arrêter la propagation. Je ne pense pas que ce soit aussi transmissible que le Covid.
Mais il y a un mode de traitement de la variole du singe.
Mais il y a un mode de traitement. On a déjà et le traitement
efficace
et le vaccin. Ils sont efficaces tous les deux. Et donc, on n'a pas à craindre autant qu'on a pu craindre même pour le Covid. On n'a pas affaire à quelque chose qui se répand comme une traînée de poudre. On n'a pas non plus une transmission qui semble affecter des familles entières ou des communautés entières. Donc on peut penser que si l'on est prudent, si l'on est vigilant, si l'on se traite correctement, peut-être si l'on vaccine les personnes qui sont les plus à risque, alors on aura la possibilité d'enrayer le phénomène assez rapidement.
Mais j'ai lu l'un des papiers, l'une de vos analyses. Vous avez mis en exergue le rôle joué par les animaux dans la diffusion du SARS-CoV-2, qui n'est pas entièrement élucidé. Est-ce que vous travaillez sur ce sujet ?
Alors oui, à l'Institut de Santé Globale de la Faculté de Médecine de l'Université de Genève, nous avons une équipe avec une vétérinaire et un biologiste et plusieurs personnes qui travaillent sur ce qu'on appelle cette approche d'une seule santé, c'est-à-dire que la santé n'est pas humaine ou animale ou environnementale, elle est une. Nous sommes dans un écosystème et comme vous le dites, on parlait de monkeypox, la variole du singe, il y a en fait, ce ne sont pas du tout des singes, mais il y a des rongeurs qui sont des réservoirs. En Afrique d'ailleurs, c'est pratiquement essentiellement ces rongeurs, ce sont des petits écureuils qui sont sauvages dans les palmeraies, avec lesquels ou près desquels les enfants africains d'Afrique équatoriale, que ce soit au Congo, au Nigeria, au Cameroun, jouent et se contaminent. En Europe, ce n'est pas du tout cela. C'est plutôt une contamination interhumaine. On ne voit pas du tout, pour l'instant en tout cas, de rôle de l'animal. Mais il faut être très vigilant. Il est tout à fait possible que des animaux domestiques, de compagnie, à leur tour, soient infectés par ce virus et deviennent des réservoirs qui contaminent d'autres personnes. Donc il faut que la surveillance épidémiologique ne soit pas uniquement concentrée sur les hommes, mais également sur les animaux.
Mais j'ai cru comprendre que il paraissait avéré que le SARS-CoV-2 avait une origine animale. Alors, est-ce qu'on n'assiste pas à un accroissement de la transmission des virus entre l'animal et l'homme ?
Si, vous avez parfaitement raison. Ça a même été vraiment documenté par des chercheurs qui ont montré que depuis plusieurs décennies maintenant, ce qu'on appelle l'anthropocène, c'est-à-dire l'action de l'homme sur la nature, engendre davantage de zoonoses, c'est-à-dire de ces épidémies qui passent de l'animal vers l'homme. Les raisons sont multiples. On est obligé, puisqu'on est de plus en plus nombreux, on n'était que 2 milliards, au début du XXe siècle, on est presque 10 milliards, on est obligé de se nourrir, on est obligé de se loger, et donc on déforeste, on est de plus en plus proche d'animaux que l'on n'avait pas l'habitude de côtoyer. On a par ailleurs beaucoup détruit la biodiversité. Tout cela n'a fait que exposer davantage l'homme aux maladies des animaux. Donc il y a en effet, et le SARS-CoV-2, vous avez aussi raison de dire qu'il est d'origine animale, on sait vraiment bien aujourd'hui que son origine, c'est la chauve-souris. On sait même l'espèce.
On est certain de ça.
Oui, on est certain. On sait l'espèce de la chauve-souris.
Et pas le pangolin.
Alors, le pangolin, c'est un animal qui pourrait être un hôte intermédiaire, parce qu'on n'a pas beaucoup de rapport avec les chauves-souris. Même si l'homme augmenter ses connexions avec l'animal sauvage. On n'est pas, aucun homme dans aucun pays du monde n'a des contacts très rapprochés avec les chauves-souris. De l'espèce Rhinolophe, c'est cette espèce qui est à peu près à la frontière entre le Laos et la Chine, d'ailleurs qui est à 1500 km de Wuhan, hein. Cette espèce où on a trouvé le précurseur du coronavirus, on sait que c'est le même que celui que nous avons, eh bien, on pense que probablement il a dû contaminer un autre animal, un animal intermédiaire qui aurait été vendu sur un marché de Wuhan et qui aurait entraîné le démarrage de l'épidémie. Ça n'est pas clair. Le maillon manquant, c'est le maillon qui nous fait transmettre ce virus de la chauve-souris vers l'homme. En fait, la chauve-souris a un virus, porte un virus qui pourrait directement infecter l'homme, mais on n'a pas beaucoup de contacts. On a une autre piste, une autre hypothèse, on va dire, qui est que des chercheurs, notamment des virologues de Wuhan, qui sont très spécialisés dans les coronavirus depuis des années, depuis le SRAS, qui est depuis 2003, seraient allés dans les grottes ou les caves un peu désaffectées de la frontière entre la Chine et le Laos, on sait qu'ils y sont allés, hein, pour faire des campagnes de prélèvement auprès de ces chauves-souris. Alors les chauves-souris, ils les capturent dans des filets, ensuite ils les maintiennent avec la main, et puis ils leur font des petits écouvillonnages de PCR, si vous voulez, qu'on connaît, soit dans l'oropharynx, soit au niveau anal. Eh bien, la chauve-souris peut se défendre, peut se débattre, éventuellement mordre le technicien ou le chercheur, et si ça n'est pas rapporté, ça peut être l'occasion éventuellement d'une contamination. C'est une hypothèse, elle n'est pas du tout farfelue, elle est discutée. Il sera très difficile de la valider, de la confirmer, parce qu'on arrive maintenant à plus de 2 ans de cet épisode-là, s'il est apparu un jour.
Est-ce qu'il y a une expansion des maladies émergentes d'origine animale?
Alors, il y a depuis donc une cinquantaine d'années une augmentation des maladies zoonotiques, donc d'origine animale, chez l'homme. On l'a vu à plusieurs reprises, on le connaît depuis longtemps. On sait que les grippes viennent des oiseaux et parfois de recombinaison avec le porc, qui vivent en cette étroite promiscuité avec l'homme dans certaines régions du monde. On sait aussi que un certain nombre de maladies, comme le Zika, le chikungunya, la dengue, sont dues à des moustiques, que parfois ces moustiques peuvent aussi affecter l'animal. On le sait donc pour un certain nombre d'émergences qu'il y a des possibilités de passage de l'animal à l'homme, soit directement, soit via des moustiques, et que cela augmente avec le temps, avec le changement climatique, avec l'anthropocène.
Et on a déterminé quand même la cause de manière assez précise aujourd'hui.
Alors, la cause de quoi? Parce qu'en fait, c'est très différent de parler du chikungunya ou de parler du SARS-CoV-2. L'un vient de la chauve-souris, l'autre vient du moustique. L'un vient peut-être de la chauve-souris via un hôte intermédiaire, et donc la cause, c'est juste que nous ayons des contacts avec cette chauve-souris d'une manière ou d'une autre, et l'autre vient de notre exposition aux moustiques qui est infectée par un virus qui est le virus du chikungunya. Donc vous voyez, et puis vous allez avoir d'autres types de maladies qui peuvent être liées par exemple à la contamination des eaux, ou alors encore comme le monkeypox, la variole du singe, par contamination, peut-être par voie sexuelle ou en tout cas par une très grande promiscuité des comportements.
Professeur Antoine Flahaut, est-ce qu'il ne serait pas temps de sortir d'une vision, je dirais, réductrice de la santé humaine et de faire le lien entre santé humaine, animale et végétale?
Mais vous savez, vous avez tout à fait raison. C'est même ce que, au début de l'année 2022, l'Organisation mondiale de la santé, basée à Genève, l'Organisation mondiale de la santé animale, basée à Paris, qu'on appelle l'OIE, la FAO, qui est l'organisation en charge du monde agricole, et puis l'UNEP, qui est en charge de tout ce qui est environnemental, ont décidé de créer une alliance, qu'on appelle l'alliance quadripartite, et qui vise justement à essayer de faire tomber ces barrières, ces frontières entre ces organisations. On pourrait même penser aller un peu plus loin encore et créer un peu comme, vous savez, il y a ce GIEC qui est ce comité qui nous alerte très régulièrement des risques liés au changement climatique. On pourrait imaginer pratiquement qu'il y ait une forme de conseil scientifique permanent qui épaule qui éclaire les avis et les recommandations de cette alliance quadripartite et qui serait constituée d'experts indépendants, de chercheurs de différentes disciplines, des vétérinaires, des environnementalistes, des gens qui connaissent bien la faune animale, sauvage ou domestique, et puis bien sûr la santé humaine, et qui pourraient travailler ensemble à promulguer quelques recommandations ou à éclairer en tout cas les recommandations que l'on pourrait promulguer.
Et vous avez effectué des travaux sur ce plan-là de recherche ?
Alors oui, nous travaillons beaucoup sur cette approche d'une seule santé. On organise une grande conférence tous les deux ans qui s'appelle le Geneva Health Forum et qui avait comme thématique cette année la santé planétaire, c'est-à-dire tout ce qui est finalement les impacts sur la santé de, je dirais, des activités humaines qui sont très souvent destructrices sur la biodiversité, sur l'environnement, sur le climat, sur la faune. Nous devons aujourd'hui penser la santé humaine d'une façon et avec une approche qui est la plus ouvertes possibles aux autres disciplines. On n'a pas tellement l'habitude d'aller dans les congrès scientifiques des vétérinaires. Les vétérinaires ont des approches qui sont souvent différentes, complémentaires, qui peuvent considérablement enrichir et permettre d'apporter des solutions. Il faut véritablement que les médecins, les ingénieurs, les vétérinaires travaillent ensemble.
Et les climatologues ?
Et les climatologues.
Alors, est-ce que le changement climatique affecte aussi, au-delà des effets de la pollution, notre rapport aux épidémies?
Alors, le changement climatique affecte les épidémies de plusieurs façons. Si je prends simplement le SARS-CoV-2, le Covid, on a pu démontrer, j'ai fait des travaux avec les climatologues de l'Université de Genève, qu'on a publié assez récemment, et qui ont montré qu'à chaque fois qu'il y avait un pic de pollution, on l'a démontré à Paris, à Londres, à Milan, enfin dans le Tessin suisse, mais aussi aux Canaries, parce que c'était des pics de pollution non pas liés aux combustions d'énergie fossile, mais c'était aux sables du Sahara. Vous savez, quand les sables du Sahara remontent, ils entraînent aussi des pollutions aux particules fines, et bien vous avez des pics de Covid. Et non seulement des pics de transmission de Covid, de cas, mais aussi de sévérité d'hospitalisation. En fait, la pollution atmosphérique et les pics de pollution, notamment dans Paris, vous font une forme d'abrasion de votre arbre respiratoire, comme si du papier de verre passait à chaque fois que vous respirez, inspirez, respirez. Vous allez passer une sorte de papier de verre sur votre épithélium respiratoire qui va l'endommager et qui va faire que vous serez plus vulnérable à l'infection par des virus respiratoires. On le sait aussi pour la grippe, ça, et c'est également le cas pour le Covid. Donc ça, c'est déjà une des formes directes, immédiates que nous avons de conséquences du changement climatique, parce que ce sont les mêmes émissions de gaz à effet de serre et donc de pollution atmosphérique sur le Covid. Après, vous avez d'autres types d'impacts, notamment on peut penser que, et on a pu démontrer que le changement climatique entraîne des sécheresses et des vagues de chaleur qui sont propices à l'éclosion de certains moustiques et parfois entraîne dans d'autres régions du monde des inondations ou bien des pluies diluviennes qui sont responsables de la prolifération d'autres types de moustiques et qui entraînent donc d'autres maladies.
Quand on vous écoute, quand on vous lit, vous nous invitez, me semble-t-il, à penser la santé différemment. Est-ce qu'il faut changer nos habitudes de vie ?
Alors c'est une question extrêmement difficile parce que nous sommes des toxicomanes, nous sommes en addiction vis-à-vis de l'énergie. Vous voyez bien que la crise en Ukraine, la guerre qui sévit en ce moment en Ukraine, nous enjoint à nous couper du gaz russe et nous ne pouvons pas parce que nous sommes comme des toxicomanes. Et ma suggestion, si nous voulons changer, c'est de changer comme on le fait dans la réduction des risques pour les toxicomanes, c'est-à-dire demander aux gens de consommer moins. De consommer moins ce qui est aujourd'hui notre énergie, soit notre nourriture d'ailleurs, soit notre tabac, soit notre énergie. De ne plus consommer. Il ne s'agit pas de dire abstinence, il s'agit de dire essayons de faire 30% de moins. J'ai fait une conférence récemment avec le prix Nobel Jacques Dubochet en Suisse, qui est un grand activiste du climat. Et on était tombés d'accord sur dire 30% c'est possible. Vous pouvez faire 30% de voyages en voiture en moins, 30% de marche à pied en plus, ou de vélo si vous faites du vélo, 30% d'utilisation des transports publics, des transports en commun en plus, 30% d'avions en moins. Ça ne veut pas dire que vous n'avez plus le droit de partir en vacances en avion. Mais essayez.
Ça fait une sacrée somme hein, quand on additionne vos 30%.
Ça va être une sacrée somme. Mais aussi 30% de viande rouge en moins, 30% de fruits et légumes en plus. La viande rouge, c'est un énorme consommateur de gaz carbonique et d'empreinte carbone. Donc si on veut véritablement diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, aujourd'hui, on peut le faire tout de suite. Et chacun de nous pouvons le faire. Et en plus, la prime que je vous donne, c'est que ce sera très bon pour votre santé. Si vous faites 30% de marche à pied en plus et 30% de consommation de légumes en plus et 30% de viande rouge en moins, ce sera excellent pour la santé cardiovasculaire, contre les cancers, contre l'obésité.
Est-ce que vous venez de dire, il faut l'intégrer à votre théorie des co-bénéfices et votre appel à une nouvelle façon d'habiter le monde? Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Oui. On peut avoir plusieurs façons d'habiter le monde. La façon que les générations précédentes ont eue jusqu'à présent, c'était une consommation effrénée qui a conduit à une forme d'addiction. On a beaucoup de mal à nous en passer. L'un des premiers réflexes que j'ai eu en arrivant dans votre studio, c'est de recharger mon iPhone. Donc, on est tous sujets à cette addiction. Et les générations d'après savent très bien que... Le robinet de l'énergie ne sera pas ouvert en permanence. Bien sûr, on a des énergies renouvelables et on peut pomper sur ces énergies renouvelables. Le soleil est une énergie à l'envi, mais nous avons besoin, je crois, de profondément modifier notre façon de vivre sans vouloir, encore une fois, prôner le véganisme ou l'abstinence vis-à-vis des boissons alcoolisées. La réduction sera extrêmement bénéfique tant pour notre santé que pour la santé de la planète.
C'est ce que vous appelez une nouvelle façon d'habiter le monde.
Une nouvelle façon d'habiter le monde.
Alors, on avait commencé par une question, je voudrais la rappeler, en tout cas je voudrais surtout que vous rappeliez votre réponse. Je vous avais dit, il y a une septième vague qui débaroule hein, sur la France, mais pas seulement. Ça nous vient du Portugal, avant ça d'Afrique du Sud. Ça va se répandre vraisemblablement sur toute l'Europe. C'est le BA5 qui n'est pas ultra dangereux, mais qui est très contagieux. C'est ce que vous nous avez dit. Mais vous avez été très raisonnable en disant que ne vous effrayez pas, si vous êtes bien vacciné, c'est une formidable résistance.
Voilà, j'ai dit aussi que j'avais un peu de préoccupation pour les personnes âgées. Quand j'ai vu au Portugal que 93% de la mortalité qui a été observée dans cette vague BA5, qui était une vague assez importante, hein, pratiquement aussi forte que celle de BA1, BA2, était chez des personnes de plus de 70 ans, et surtout des personnes de plus de 80 ans, je me dis... Il va falloir faire très attention à nos personnes âgées en Europe occidentale cet été. Le risque qu'il y a, vous savez, si vous faites des projections de la mortalité du Portugal sur la France, on n'est pas très très loin des chiffres de la mortalité par la canicule de 2003. Il ne faudrait pas que nos personnes âgées un peu abandonnées l'été se retrouvent contaminées et n'aient pas
accès. C'est
le risque. Oui, s'ils n'ont pas accès au diagnostic et au traitement, parce qu'on peut les sauver. Aujourd'hui, on pourrait presque être très ambitieux et dire zéro décès avec le Covid. On n'a plus de raison de mourir du Covid. Pourquoi meurt-on encore du Covid? C'est parce que on était vulnérable et qu'on n'a pas été diagnostiqué à temps et qu'on n'a pas reçu à temps un médicament efficace qui est commercialisé en France, qui existe en France et qui marche très bien. On parle du Paxlovid, il y a le Remdesivir, il y a deux antiviraux qui sont très efficaces. Si on les prescrit à ces personnes âgées, faibles, ou éventuellement à des personnes immunodéprimées qui le savent très bien qu'ils sont immunodéprimés, eh bien, on peut les sauver. Donc, je ne dis pas qu'elles n'auront jamais le Covid, peut-être elles l'auront, mais si elles l'ont, il faut immédiatement leur donner ces traitements. Et si on ne le fait pas, on risque d'avoir une mortalité élevée. Et ça, ce serait inacceptable. Et je pense que c'est ça le danger qu'il y a. Et en effet, tout le monde n'a pas à s'effrayer de ce Covid, de ce BA5, ça va ressembler au BA2, au BA1. Il est un tout petit peu moins sympathique que le BA1 ou le BA2, parce que si vous vous souvenez, cet hiver, beaucoup de gens disaient « Oh, moi j'ai eu le Covid, mais c'était rien ». Ils avaient fait un test, ils étaient positifs et ils étaient quasiment asymptomatiques, ou ils avaient un tout petit rhume. Et là, le BA5, visiblement, vous met quand même au tapis pendant 3-4 jours. Et après, vous récupérez sans aucun traitement. Hein. Simplement, vous avez été bien, bien malade pendant 3-4 jours. Donc, ça ne vous gâche pas tout l'été, mais ça peut vous gâcher une partie quand même de vos vacances.
Professeur Antoine Flahaut, on a fini d'écouter vos explications. Revenez nous voir. On vous écouterait pendant des heures.
Merci.
Voilà, c'était le premier des grands entretiens. Dimanche prochain à 10h sur Europe 1, bien sûr, l'un des grands espoirs de la droite politique, David Lisnard, maire de Cannes et président de l'AMF, l'Association des maires de France.
Les grands entretiens sur Europe 1.